Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix de Belgique disputé à Spa-Francorchamps. C'est la dernière course avant les grandes vacances estivales. Alors, pour en parler, j'accueille avec moi Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien.
Salut Abdou.
Comment ça va?
Ben, c'est bien, c'est le début des vacances pour la Formule 1, donc on va pouvoir avoir des fins de semaine tranquilles dans les prochaines semaines.
Ah oui, oui, oui. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être un peu tristes de ne pas avoir de Formule 1, mais personnellement, je pense que ça va faire du bien un peu. Presque complet sans Formule 1, surtout qu'on avait eu quoi, 4 courses en 5 fins de semaine, ça va faire du bien un peu. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner le classement du Grand Prix de Belgique. Max Verstappen a remporté sa 10e victoire de la saison et c'est une 8e consécutive pour le pilote néerlandais qui court sous la nationalité néerlandaise, mais qui est né en Belgique d'ailleurs, il veut une petite précision. Sergio Perez finit 2e, donc un doublé Red Bull, leur 27e en carrière. Charles Leclerc finit 3e, Lewis Hamilton 4e, Fernando Alonso 5e, George Russell 6e, Lando Norris 7e, Esteban Ocon 8e, Lance Stroll 9e et Yuki Tsunoda complètent le top 10. On a perdu deux pilotes, Carlos Sainz au 23e tour et Oscar Piastri qui n'a plus complété un tour du Grand Prix, lui qui a été victime d'un accrochage à la source directement, donc on reviendra là-dessus. Jean-Sébastien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais as-tu une performance, contre-performance et moment cocasse de ce Grand Prix?
Alors, performance du jour à égalité, j'ai envie de la donner, triple égalité même en tête. Personnellement, j'ai voté pour le pilote du jour, j'avais voté pour Yuki Tsunoda lorsque la période est ouverte, mais lorsqu'il s'est fait dépasser par Esteban Ocon au 39e tour pour perdre la 9e place, je me suis dit, j'ai peut-être voté pour rien, je me suis peut-être trompé, mais on a vu que Yuki Tsunoda était encore en 3e position pour les pilotes les plus appréciés du jour. Je trouve qu'il a fait une bonne performance. Oui, c'est sûr que la performance n'est pas extraordinaire, passe de la 11e à la 9e, puis termine 10e, mais il a été constant pendant tout le Grand Prix. C'est ce qu'on veut, je pense que c'est ce qu'on a besoin d'un pilote qui est sa 3e saison en Formule 1, qui est encore très jeune, mais qui a besoin pour sa confiance, surtout qu'il a mis une bonne claque à Daniel Ricciardo, qui n'a jamais su remonter le peloton pendant le Grand Prix avec sa preuve en 16e position. Donc, je trouve que Yuki Tsunoda méritait le pilote du jour, mais quand on regarde le classement, c'est vrai que Lando Norris qui a connu une course de misère, la voiture avançait pas, la voiture était trop lente, trop d'appui aérodynamique. Ça avait été annoncé par McLaren hier, mais finalement termine 7e, c'est une très bonne performance pour Lando Norris. Je l'avais oublié dans le classement, sans revoir le classement juste avant qu'on commence l'enregistrement, je m'étais dit même finalement il y a Lando Norris. Mais sinon, la vraie performance du jour, c'est l'interprète de l'hymne national de Belgique avant le Grand Prix dans la version rock. Ce n'est pas la première fois que la Belgique nous offre des performances hors de l'ordinaire. J'ai vu certaines pages Facebook, pour ne pas la nommer, la Fédération française de la Loose, qui donne à la meilleure de l'Eurovision 12 points à la Belgique pour l'ensemble de l'œuvre. Je sais que beaucoup de Belges sont un peu gênés par ce qui a été présenté. Moi, personnellement, je trouve ça assez agréable. Je trouve ça intéressant de faire des relectures d'hymnes nationaux. Et comme je disais, c'est pas la première fois parce qu'en 2009, je pense, oui, 2009, la Belgique avait fait une version jazz de l'hymne national et j'avais beaucoup aimé cette version-là. Donc, si vous retournez un peu dans les archives, si vous êtes capable de la retrouver, vous allez voir que c'était assez intéressant. Donc oui, un petit point bonus à la Belgique pour penser à relire l'hymne national. Il n'y a que les Belges qui peuvent faire ça.
Ah non, mais c'était une belle vibe, ça. Et puis, honnêtement, c'est sur le premier truc que je suis tombé en allumant la télé. C'était justement l'hymne national. Puis, j'ai vraiment apprécié. Évidemment, je suis un peu biaisé, ça ne battra pas celui de Sam Ryder l'année dernière au Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais ça vient proche d'une des meilleures prestations d'hymne national pendant un Grand Prix.
Et toi, de ton côté, Abdou, performance, contre-performance, vite, peut-être Daniel Ricciardo, on pensait qu'elle allait mieux remonter. mais c'est pas extraordinaire. Peut-être Piastri et Sainz pour leur accident, mais ça, on va y revenir dans un instant, c'est beaucoup plus controversé. Peut-être Ricardo, on s'attendait à meilleur de lui aujourd'hui, mais ouais, c'était pas facile. Il a pas pu vraiment rouler sur le sec. C'était difficile à évaluer, mais en même temps, personne n'a pu le faire. Puis il se fait prendre une bonne claque par Yuki Tsunoda. Donc peut-être Daniel Ricardo pour le résultat. Abdou?
Moi, ma performance, je vais la donner. Je vais quand même la donner à Yuki Tsunoda, même si au final c'est pour finir encore dixième. Ça a été un très bon début de course. On en reparlera un peu plus tard. Sinon, Esteban Ocon, une bonne performance surtout dans une fin de semaine assez difficile pour Alpine en tous les sens du terme.
Le dépassement d'Ocon était très joli sur Tsunoda.
Ah oui. C'était de toute beauté aussi. Et Pierre Gasly aussi a fait de très beaux dépassements en plus. Là, c'était...
Oui. C'est peut-être mon dépassement du jour. Gasly sur Albon, là, sur quatre virages, c'était très, très beau.
Ah oui, vraiment. Là, surpasser celui de Lando Norris à l'extérieur du virage sans nom, là, c'était de toute beauté.
Oui.
Sinon, contre-performance, j'en reparlerai aussi, mais Williams, bon début de course, mais ça fait pouette.
Ouais, la stratégie à trois arrêts n'a pas aidé.
Et disons, ouais, ça, trois arrêts, c'était pas fameux du tout. Et puis, le moment cocasse, je vais le donner, en fait, à Giampiero Giampiero Labbiasi, l'ancien ingénieur de course de Paul Di Resta, mais celui actuellement chez Max Verstappen.
Oh, super, merci pour la précision, l'ancien ingénieur de Paul Di Resta, surtout l'actuel ingénieur
de Max Verstappen. C'est parce que... Évidemment, je connais JP à cause de Paul Di Resta, là, dans le temps avec Force India, donc c'était, mais c'est surtout, il a été vraiment sassy, a remis un peu Max Verstappen à l'ordre, à plusieurs reprises au cours de la fin de semaine, alors, je crois que lui aussi est dû pour des vacances.
Ouais, sur Sky Sports, on a mentionné à une reprise à un moment donné dans les commentaires en disant est-ce qu'on se rapproche de Kimi Raikkonen et des messages très explicites qui peuvent s'envoyer? Peut-être, peut-être pas, c'est pas tout à fait clair, mais on s'ennuie beaucoup de Kimi Raikkonen. Il y avait une vibe un peu passive-agressive, disons.
Ouais. Ah, JP avec Max, c'est souvent le cas. Puis aujourd'hui, c'est comme ça atteint son paroxysme.
Oui, mais en même temps aussi, je peux comprendre JP dans la mesure où Max Verstappen quand essaie de brûler ses pneus dès qu'il se fait chausser les tendres pour aller chercher le meilleur tour. C'est pas nécessairement l'idée du siècle, surtout qu'on mène à ce moment-là par plus de 10 secondes, puis on va remporter le Grand Prix par 22 sur Perez, par 31 sur Leclerc. Il y a peut-être des choses plus intelligentes à faire, mais bon, en même temps, qui va contredire un futur troisième champion du monde?
Ouais. Mais et il y a justement on parle de Red Bull, on va faire la transition. Quand même Verstappen, quand même parti sixième. Hein?
Ouais, parti sixième, ça lui a pris du temps avant de prendre la tête. Il la prend finalement au 17e tour.
Ouais.
A été un peu bloqué derrière Hamilton, c'était un peu difficile. Mais quel dépassement sur Hamilton, il est tellement parti de loin.
Ouais.
Au sixième tour pour le dépasser, il était vraiment loin, ce qui prouve que les freins, encore une fois, sur cette Red Bull sont puissants, beaucoup plus que les autres voitures. Oui, il y a une vitesse de pointe qui est quand même assez exceptionnelle par rapport aux autres équipes, mais j'insiste, ça fait un ou deux ans, les freins sont incroyables sur cette voiture.
Oh, ah, et pas seulement les freins, en fait, l'ensemble de la voiture.
L'ensemble de l'œuvre. Mais les freins, encore une fois, je les trouve assez incroyables. Je crois une des premières fois que j'en avais parlé, c'était lors du fameux Abu Dhabi 2021.
Ah, ouais.
Quand Verstappen va chercher Hamilton au dernier tour, c'est assez incroyable. Donc oui, là-dessus, t'es assez loin. Pris un peu de temps pour aller chercher Leclerc, mais pas tant que ça, a remonté rapidement l'écart. Surtout après son arrêt au puits, où Verstappen était à 2,2 secondes, j'ai une note écart stable. Et mm-hmm. Deux tours suivants, Verstappen est déjà dans le DRS de Perez. Ouf, ça fait mal.
Ah oui.
Et puis après, ben, le reste, c'est connu. On sait exactement comment le Grand Prix se termine. Donc, 22 secondes sur Perez. Quelle claque. 31 sur le concurrent le plus proche, qui est une non Red Bull. Ouais, ça fait mal. On pensait que les écarts s'étaient rapprochés pendant l'année. Finalement, quand on regarde les différents types d'écarts que tu m'as envoyé à Blue avant, oui. Avant le balado, bon, on voit que c'est, oh, il y a une exception à Montréal avec 10 secondes d'écart sur une non-Red Bull. C'est pas vraiment le cas. Il y avait un oiseau dans le ponton, donc il aurait pu en mettre davantage. Mais sinon, sur un Grand Prix à la régulière, quand il n'y a pas de drapeau jaune, c'est l'écart habituel. On met 30 secondes à tout concurrent.
Ouais, exact. Parce que et pour vous mettre en contexte, c'est Philip Horton qui est journaliste à Auto Week et à plusieurs autres médias qui a fait en fait tout le qui a fait la compilation des marges
des écarts à l'arrivée.
Exact. Bahreïn 38,6 secondes. Arabie Saoudite 20,7 secondes. Australie
ça termine sur une voiture de sécurité, donc ça compte pas.
Ça compte pas. Azerbaïdjan, 21,2. Miami, 26,3. Monaco, 28 secondes. Espagne, 24 secondes. Montréal, 9,5. Mais évidemment, l'oiseau a décidé d'aller jouer dans le ponton de Red Bull. Autriche, en fait, l'écart officiel est de 5,1 secondes, mais en fait, c'est que Verstappen s'est arrêté pour aller chercher le point bonus du meilleur tour. Donc, l'écart était de 24 secondes avant ça. Grande-Bretagne, 3,7, mais ça, c'est parce qu'il y a eu une voiture de sécurité assez tardive. Hongrie, la semaine dernière, 33,7. Et ça, non seulement ça, mais c'est sur Lando Norris qui a fini deuxième. Et Belgique, aujourd'hui, 32,2 sur Charles Leclerc. C'est fou à quel point autant quand Red Bull gagne, c'est absolument un écrasement total. Et en plus de ça, il y a rien pour les arrêter. Hein. Il y a pas eu un problème mécanique qui a empêché Red Bull durant un Grand Prix, parce que oui, il y a eu Verstappen qui a eu ses problèmes en Arabie Saoudite, mais c'était en qualification. Perez, hier, c'était plus parce que Hamilton l'a accroché. Mais sinon, lorsque ça compte pour vrai, Red Bull a été intraitable, sans gêne. Puis, en même temps, officiellement, c'est la première écurie à avoir gagné les 12 premiers Grands Prix de la saison, parce que McLaren, quand elle a réalisé l'exploit de gagner 11 victoires consécutives en 88, c'était justement les 11 premiers Grands Prix de la saison. Donc, Red Bull la RB19, on est en train de voir la meilleure ou bien une des meilleures, je vais dire top 3 des voitures les plus historique de la Formule 1.
Ouais, c'est probablement une des meilleures voitures du sort de la Formule 1. Il y a quelques semaines au balado qu'on a essayé de comparer à quoi on peut comparer une Red Bull. On était, je crois, au 5e ou 6e Grand Prix. Marc-André, lui, voyait les Mercedes des années 2010. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je me voyais davantage une Ferrari du début des années 2000 où les écarts étaient outrageux, où on gagnait le championnat du monde de Formule 1 au Grand Prix de Hongrie autour du 11e ou 12e Grand Prix. Et des dominations ultra fortes. On était dans ces eaux-là au début de la saison. Maintenant, on n'est plus là. On est en train de réécrire carrément le livre des records ici. Là. C'est des performances qu'on n'a jamais vues en Formule 1.
Et en même temps...
Et c'est pas parce que les autres voitures sont mauvaises. Elles sont très bonnes.
Ouais.
C'est juste que celle-là est encore meilleure que les autres.
Mais tu vois, c'est ça. C'est que je regardais aussi quelques anciens Grands Prix des années 2000. Puis au moins, tu voyais... Par exemple, je regardais le Grand Prix du Canada 2002. Montoya avait obtenu la pole position à Montréal. Ouais. Mais quand même, oui, il y a eu une certaine circonstance. Par exemple, la voiture de sécurité, parce que Jacques Villeneuve a fait comme ce qu'il faisait d'habitude, c'est-à-dire abandonner à Montréal. Mais Ferrari était quand même capable de... Il y avait un peu de compétition parce que Williams ou bien même McLaren allait titiller un peu Ferrari en 2002.
Rappelle-toi le fameux Grand Prix d'Hongrie 2002 ou 2003, c'est mon Schumacher. Michael, on va peut-être pas gagner le Grand Prix, là. Donc, si tu veux le gagner, là, faut que tu nous fasses 20 tours, de Cali pour qu'il aille nous chercher 25 secondes pour qu'on puisse faire un arrêt supplémentaire pour faire les pneus puis évidemment mettre de l'essence, mais on a besoin d'un coussin supplémentaire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des stratégies comme celle-là. On fait juste garder le plan initial ou ce qui semble être le plan initial. S'il y a d'autres plans qui sont impliqués, s'il y a d'autres stratégies, on les sent pas vraiment. Ici, dans ce cas-ci, tout est là. On respecte le plan initial et on gagne.
Exact.
Il n'y a même pas besoin d'aller chercher une stratégie supplémentaire. C'est humiliant à ce point-là pour les autres équipes.
Ah non, clairement. Puis je pense que c'est Toto Wolff qui disait que c'était Red Bull contre... il se qualifiait quand même de voiture de F2 aussi. Là. C'est parce que ça ressemble à ça. Parce que oui, il y a eu Charles Leclerc qui a eu, et Lewis Hamilton qui ont eu la poule, mais c'est parti comme ça.
C'est un rythme de course, cette voiture-là est tout simplement imbattable.
Ah oui, et on l'a vu aussi quand Perez a dépassé Leclerc à la droite du Kemmel aussi au départ.
Ouais, ouais.
Non, c'était juste une question de temps avant que Verstappen aille justement chercher Leclerc. Bon, ça a pris un peu plus de temps que d'habitude, mais il l'a quand même fait, puis sans trop de difficultés quand même. Donc, tu sais, cette Red Bull est tout simplement exceptionnelle. Et en plus, Verstappen est sur 8 victoires consécutives et pourrait égaler la marque de Sébastien Vettel pour le plus grand nombre de victoires consécutives et pourrait le faire à Zandvoort. Et briser le record même en Italie. Donc,
oui, à 11 Grands Prix.
Exact. Donc, vraiment, ça va vraiment être... ça va prendre une circonstance extérieure pour que
le bruit mécanique n'a pas l'air proche.
Non.
Donc, il faut un instant de course à Verstappen, un snap pour qu'il se termine dans le mur, comme Alonso a fait hier pendant le sprint. Il faut une erreur du pilote parce que on dirait que la voiture ne va pas casser.
Non, c'est ça. Et puis, parfois, Perez a été inconstant cette année aussi. Aujourd'hui, ça s'est bien passé dans les circonstances.
Aujourd'hui, c'est très constant. Il faut le reconnaître. Oui. Très constant, là. C'est pas de sa faute.
Non, c'est ça.
C'est juste qu'il y a Max Verstappen comme coéquipier.
Ah, exact. T'sais, on peut bien blâmer. Parce que oui, Perez est évidemment à blâmer pour plusieurs trucs cette année. Mais il a Verstappen comme coéquipier qui est une.
Oui, c'est Eddie Irvine versus Michael Schumacher. C'est Rubén Barrichello versus Michael Schumacher.
Voilà.
On est sur des niveaux comme ceux-là.
Exactement. C'est exactement ça. Et il faut que Perez soit un excellent numéro 2 parce que Barrichello et Irvine, eux, quand Schumacher n'était pas là, a été capable de livrer la marchandise. On l'a vu un peu cette année, mais t'es imagine.
On l'a pas vu dans les derniers Grands Prix. Perez n'est pas présent quand il faut monter le niveau.
Exactement. Mais là, on revoit exactement un peu le Perez du début de saison, au moins depuis justement le Grand Prix de Hongrie. Donc, ça a été une bonne course. Sinon, derrière, parlant de Ferrari, Charles Leclerc, quand même, parti en pole position, évidemment, était juste... excusez-moi le terme, a sitting duck avant de se faire attraper par les Red Bull, mais a très bien géré sa course quand même.
Ouais, Leclerc, il le dit en entrevue, est très satisfait de la voiture, dans le rythme. C'est quand même triste de dire que je suis quand même satisfait de mon Grand Prix quand tu termines à 32 secondes de la tête, là, mais quand même, c'est une seconde autour sur un circuit de 7 km, donc c'est quand même relatif, là, mais n'empêche, ça dit une partie de l'histoire. Bon Grand Prix de sa part, dans le rythme, a essayé de combattre, a pu bien se défendre contre Hamilton. Je pensais que ça aurait été plus difficile que ça, mais Hamilton a eu un peu plus de difficultés que prévu. Donc, tant mieux pour Leclerc, mais oui, du moment que une Red Bull a un DRS et se trouve sur une ligne droite, la voiture ne peut pas. Quiconque ne peut rien faire sur une Ferrari contre une Red Bull.
Ah oui. Non, vraiment, écoute, Ferrari a. Ferrari a exactement fait ce qu'il fallait faire. Rester sur le plan initial, ne pas trop faire de bêtises comme on aime les voir faire.
Aujourd'hui, conversation radio étrange, veux-tu faire le plan A ou le plan B? Rien.
Ouais. Donc, non, c'est ça. C'est un bon répit pour Ferrari quand même d'avoir eu une course sans... Ben, du côté de Leclerc, sans problème, mais de l'autre côté du garage, je suis énormément surpris et je l'ai même posé la, j'ai même mis sur sur mon compte Twitter personnel. Je l'appelle encore Twitter, by the way.
Ça va rester Twitter.
Ouais, ça va rester Twitter. Fuck X. Bref. J'ai dit, mais pourquoi Carlos Sainz... Pourquoi Ferrari ne retire pas Carlos Sainz? Parce que... il recula après l'accrochage au premier tour avec Oscar Piastri. Il avait quand même perdu 5% d'appui aérodynamique. Et imagine si la pluie était là en plus. Ben, il y a eu un peu de pluie, donc ce qui n'a pas aidé les choses. Donc... Et normalement, si tu veux sauver un peu de moteur, les pièces aussi, ça aurait été le meilleur moment de le retirer dès maintenant pour éviter toutes sortes de problèmes. Je comprends que c'est bientôt les vacances et tout ça, mais les allocations continuent aussi au cours de la saison, donc.
Puis, il n'y a pas de données à aller chercher sur une voiture endommagée. On a vu quand même le ponton droit était sévèrement endommagé, là, ouais. Quand même. Sainz a quitté le top 10 au 8e tour. C'est au moment où est-ce qu'il s'est arrêté pour faire changer ses pneus. A abandonné au 25e tour. On l'a pas arrêté au 8e. Il n'allait pas remonter.
Ben oui.
On le savait qu'il n'allait pas remonter. Il a fait 17 tours de trop.
Et puis, tu sais, même dans la période où Lando Norris était loin, loin, loin derrière, il a été... Norris a été capable de... Ah, ben en fait, il a fondu complètement l'avance qu'il a... Le retard qu'il avait, ouais, sur Sainz. Donc,
ouais,
est-ce que c'était vraiment nécessaire?
Non, il y avait 17 tours de trop là-dedans qui ont servi à pas grand-chose, ce qui a fait dépenser quoi, à peu près 130 km. Donc, il aurait pu économiser toute cette distance-là pour peu de choses. Donc, c'est un peu étrange. Mais plus qu'on parle de Sainz, selon toi, Abdou, pénalité ou pas? Est-ce que c'était une bonne décision de la FIA de dire que c'est un incident de course?
Moi, je pense que c'était...
Entre Sainz et voyons.
Et Piastri.
Et Piastri, oui.
Moi, je pense que c'était un incident de course, non, c'était un incident de course, je trouve, mais Sainz ne s'est vraiment pas aidé.
Non, il ne s'est pas aidé parce qu'il a bloqué les pneus avant le freinage.
Ouais.
Au freinage, il a bloqué les pneus. Un peu dévié la voiture. Je suis à peu près du même avis que toi. Pour deux raisons. Un, Sainz fait une erreur, essaie de prendre son virage, oui, un peu de mal. OK, soit il est un peu fautif, mais je trouve que Piastri aussi est très fautif parce qu'il est allé très serré au virage numéro 1. C'est, ouais, une faute de débutant. On ne va pas profondément à cet angle-là. On essaie de rester un peu large. Je comprends que Sainz n'est pas très loin, mais on essaie de garder une certaine distance pour justement essayer d'éviter ce genre d'incident. On a vu derrière Alonso, il est resté assez large. Il a pu prendre son virage correctement. Ouais. Il n'y a pas eu de difficulté. Donc, moi, je trouve que l'incident est plutôt 50-50. Piastri aurait dû mieux savoir négocier ce virage et prendre un peu plus de distance, quitte à peut-être perdre une position. Mon moins, il aurait encore été en course, alors que là, arrive même pas à terminer le premier tour. Je trouve que c'est un incident qui est très 50-50. Je pense pas que Sainz est fautif. Bien au contraire, je pense que Piastri a une part de responsabilité là-dedans.
Ouais, en fait, ouais. Moi, je pense que les deux ont vraiment une bonne partie de leur responsabilité. Effectivement, parce que Sainz aurait pu mieux gérer le virage. Il avait un peu d'espace pour se coller à Hamilton.
Ouais.
Mais Piastri, en essayant d'aller mettre son nez au vibreur de la source, surtout que Sainz était encore là, je pense que c'était loin d'être une bonne idée, mais...
Ouais, c'était serré, même là où il était, dans l'absolu, s'il n'y avait personne, c'est quand même assez serré. Donc, on aurait eu une mauvaise sortie de virage, et après, la réaccélération était un peu plus mal. Lorsqu'on regarde du point de vue d'Alonso, beaucoup mieux placé, arrive à mieux négocier le virage. On le voit en plus, parce qu'on voit devant, évidemment, Piastri avec son virage trop serré.
Ouais. Et c'est dommage, parce que Piastri a fait un très... s'alignait sur un excellent week-end. Tout ça pour finir avec 0 point et... un demi-tour.
Aurait sans doute pu terminer devant Norris. Norris qui a terminé 7e. Donc, ça répète un doublé dans le nombre des points pour McLaren.
Ouais, exactement. On va parler de Mercedes. J'en ai parlé un peu. Moi, j'ai trouvé Mercedes un peu... Ben, plus Lewis Hamilton, un peu seul. Russell, lui, a dû se battre contre d'autres pilotes, au moins, mais...
Il a été dans le trafic, c'est vrai.
Oui, il a été dans le trafic. Russell a été dans le trafic, mais Hamilton a connu une course un peu seule. A fait sa course, ça a été correct, mais sans plus.
C'est vrai, a connu quelques dépassements. La bataille avec Alonso était, je pense, brève. Tellement brève que je ne l'ai pas dans mes notes.
Ouais, c'était, ça a duré genre un tour et demi, en fait, à peu près, là, je peux dire.
Ouais, c'est ça. Ouais, course assez solitaire pour Hamilton. Course plus significative dans le cas de Russell, qui est quand même parti assez loin, Russell, là, je ne me trompe pas. Russell est parti 8e et terminé en 6e, mais... a été un peu loin, fait un arrêt un peu hâtif pour essayer ensuite de se remonter. Mais oui, c'était pas la course la plus palpitante, je pense, pour les deux pilotes Mercedes, de façon générale.
Ouais. Ouais.
J'ai très peu de notes sur les Mercedes.
Ouais, c'est rare qu'on ait peu de notes de Mercedes, mais vraiment, Hamilton, bon, il y avait un certain point, je pense qu'il essayait d'économiser les pneus tendres pour essayer d'attaquer Leclerc en fin de course, mais finalement...
Ça a pas super bien marché.
C'était à un moment donné, je pense qu'il était
Hamilton s'est arrêté au 28e pour faire son dernier arrêt. Je trouvais que c'était tôt parce que ça faisait quand même 16 tours pour finir le Grand Prix, mais après, sur Sky Sports, on nous a rappelé que Gasly en a fait 20 tours au début du Grand Prix, donc oui. avec une voiture remplie d'essence, on pouvait faire 20 tours. Donc oui, Hamilton pouvait terminer le Grand Prix, mais ouais, il manquait un peu de vitesse pour pouvoir dépasser la Ferrari en fin de semaine. Donc il y avait un avantage clairement à Ferrari et non à Mercedes pour une fois.
Exact. Au moins, Hamilton va avaler le point du meilleur tour à Max Verstappen dans le dernier tour. Donc, c'est...
Avec des pneus médiums.
Oui, en plus.
Quand même. Mais bon, c'est à la fin du Grand Prix, donc il reste beaucoup moins d'essence, ça peut être plus facile, n'empêche.
Exact.
Et en plus, on peut le défoncer aussi, les pneus. Hein.
Exactement. De toute façon, c'est rendu là, c'était juste à qui mieux.
Mm-hmm.
Et c'est Annie Curie qui a eu un bon revirement de situation, c'est Aston Martin, parce que samedi, c'était complètement horrible avec Stroll qui a eu un accident en SQ2, qui s'élimine lui et Alonso aussi. Alonso qui s'élimine aussi à Pouhon, qui a fait rappeler un accident presque similaire à celui d'Antonio Giovinazzi en 2019. Et d'ailleurs, joyeux anniversaire encore, Fernando. Mais au moins, Alonso s'est rattrapé avec une belle cinquième place. Un bon départ, je trouve, de la part des deux Aston Martin. Plus pour Alonso, surtout, qui a été capable de bien négocier ce Grand Prix. Surtout que cette équipe a vraiment chuté depuis quelques courses. Au moins, cette cinquième place, elle est relativement satisfaisante comparée aux dernières épreuves.
Ouais, Aston Martin n'est clairement plus la deuxième meilleure équipe sur la grille. J'ai du mal à essayer de les placer. On dit souvent de façon proverbiale, et je sais que c'est un avant-goût du balado de mardi, sur le bilan de mi-saison, essayer de classer les différentes équipes notamment, mais on est seulement aussi bon qu'à son dernier Grand Prix ou à sa dernière sortie. Je pense que ça s'applique dans le cas ici d'Aston Martin, qui n'est certainement pas la deuxième meilleure équipe. Ils sont quelque part entre la troisième puis la cinquième meilleure équipe. Je sais même pas s'il faut mettre McLaren devant eux. Je trouve ça assez compliqué en ce moment.
Ouais.
La course de dimanche était bien meilleure que samedi. C'est pas difficile. Surtout pour Alonso, qui a connu une course dans le rythme, je pense. On dit que les améliorations techniques vont arriver au retour des vacances. Mmh. Et c'est seulement au retour des vacances parce qu'ils ont tout épuisé leur temps de location en soufflerie. Donc, tout va arriver au retour des vacances à partir de Zandvoort et de Monza. C'est du côté de Stroll qui m'inquiète. J'ai noté au deuxième tour et je trouvais ça inquiétant. Albon dépasse Stroll. Oh. Legit en course. Ça faisait mal, ça.
Mais c'est
parce qu'Albon connaissait un bon Grand Prix jusqu'à son arrêt, parce qu'il termine quand même très loin, 14e, mais il a fait trois arrêts, là, mais ça, c'est circonstanciel à cause des pneus. Mais au début du Grand Prix, je me disais, oh wow, Albon survole et Stroll est à la ramasse. Il se fait dépasser par une Williams. C'est humiliant.
Ouais.
C'était humiliant à ce moment-là, mais pas tant finalement. Mais Mais quand même, je trouvais que ça disait quelque chose de la performance de Stroll qui, depuis quelques Grands Prix, est bien en dessous de sa norme par rapport à Alonso. Les deux ont ralenti, mais je trouve que Stroll a encore plus ralenti que Alonso. Et là, aujourd'hui, c'était une preuve tangible. Parce que Alonso termine dans les points 5e, Stroll finit 9e, c'est loin.
Ouais.
C'est peut-être meilleur que ça.
En même temps, oui, je suis d'accord avec toi du côté de Stroll, mais je pense aussi Aston Martin a un peu foiré là, son un de ses arrêts au puits aussi, ce qui l'a peut-être pas aidé non plus, mais en même temps, se fait dépasser par Ocon dans les derniers tours et si le Grand Prix avait duré un tour de plus, il se faisait dépasser par Yuki Tsunoda.
Ouais, c'était difficile que Stroll se fasse dépasser par Russell. Ok, d'accord. Qu'il se fasse dépasser par une McLaren, ça commence à devenir inquiétant. Qu'il se fasse dépasser par Alpine, je comprends qu'ils ont un petit peu le vent dans les voiles actuellement, mais c'est pas censé être la norme. On est censé être meilleur qu'Alpine.
Ouais.
Qu'il se fasse potentiellement dépasser par Yuki Tsunoda, oh, ça c'est dangereux. Donc, il se passe quelque chose chez Aston Martin. J'espère qu'au retour des vacances, il y aura de bonnes améliorations, enfin bien plus que par rapport aux autres équipes, parce que sinon, comme Pierrot aime bien dire, si on n'avance pas, on recule.
Ouais.
Il y a besoin d'amélioration juste pour sauver déjà l'autre partie du garage. Alonso, ça va encore, mais je pense qu'il peut. Je pense que pour les prochains Grands Prix, il va devoir un petit peu monter le rythme, là, mais c'est sûr qu'il est inquiétant.
Ouais, exact. Mais quand même, ce sont des points minimes qu'il récolte. Mais Stroll, depuis, à part Silverstone, se retrouve dans les points constamment.
Oui.
Ça.
Mais cette voiture est censée finir dans les points.
C'est ça le truc. C'est pour ça aussi que c'est un peu mitigé.
J'ai dit une fois encore cette saison, cette voiture-là est trop bonne pour ne pas finir dans les points. Elle doit finir systématiquement dans les points.
Ouais. Mais moi, je m'attends à un peu plus. Parce que oui, t'es 9e, ça va, ce sont deux points, mais.
C'est une 7e place que vous visez, là, minimum.
C'est ça.
Quand on regarde qui termine là, il y a devant lui, là, Verstappen ne peut pas le battre, Perez ne peut pas le battre, Leclerc ne peut pas le battre, Hamilton ne peut pas le battre, Alonso, peut-être, oui. Russell, difficile encore. Norris, il est censé le battre. Ocon, il est censé le battre.
Exact.
Donc, exact. C'est une 7e place qui devrait être légitime pour Stroll. Il commence 10e, finit 9. C'est pas les gros chars.
Non, c'est ça. Tiens, on va parler d'Alpine justement parce que,
super week-end, hein? Ils sont sur deux week-ends de fou en ce moment.
Ah oui, ça en piste, il n'y a rien à redire. Ça, en piste, ça va.
Du point de vue administratif,
écoute, si j'avais un centre club, je pense que je sais pas quel genre de club j'aurais mis, mais écoute. Côté administratif.
C'est quoi le projet sportif de cette équipe?
Ça, là, j'ai envie d'en reparler lors du bilan de mi-saison parce que vraiment, ça me frustre de voir ça. Là. Trop ambitieux. Au moins, en piste, ça s'est bien passé. Gasly a fini 3e lors du sprint. Ça, c'est excellent. Aujourd'hui, les deux pilotes, même si Gasly a fini hors 11e, Il a fait une très bonne course. Ocon a été vraiment bon aussi. Les deux ont... Et je pense, côté stratégie, Alpine ne s'est pas trompé du tout.
Non.
OK. Il y a eu un arrêt un peu lent du côté de Gasly. Je crois que le pneu avant droit, lui aussi, à l'image de Otmar Szafnauer et Alan Pullman, contrairement, je veux dire, à ces deux-là, ne voulait pas partir. OK.
Exact.
C'était chiant.
mais quand même assez représentative du week-end, oui.
Exact. Mais au moins, ça sauve un peu les meubles, même si c'est deux. Même si McLaren marque deux. Ben. McLaren a marqué plus de points parce qu'il faut aussi ajouter les points au sprint, mais.
Ouais.
Au moins, Alpine commence à aller mieux, au moins, en piste. Il faut toujours que je précise que c'est en piste que ça va mieux.
Parce que du point de vue administratif, ça ne va pas du tout.
Exact.
C'est étonnant. Ça étonne. Autant les tensions devaient être dantesques dans les précédentes semaines, parce que ça n'arrive pas au grand jour comme ça d'un coup. Là. Ça ne pète pas comme ça par hasard. Là. Il y a une construction qui se déroule à l'usine. Là.
Ouais.
Laurent Rossi j'espère, a de sérieux arguments pour vendre un nouveau projet sportif aux deux pilotes français parce que ça ne sera pas facile pour la prochaine année. Au moins en piste, les résultats sont là, mais derrière, il y a quand même plus de 400 personnes qui doivent être inquiètes de se poser des questions sur comment le projet sportif va se dérouler. Parce que ça rappelle, puis on peut faire des analogies avec le football, là, mais il y a des équipes françaises de Ligue 1 avec qui on se dit c'est quoi le projet sportif, c'est pas clair. Et je m'excuse davantage aux fans. Oh, même pas à eux. Je pense à éternellement l'Olympique de Marseille qui se voit tout le temps en train de se dire je peux me battre pour le championnat ou l'Olympique de Lyon. Là, comme ça, là, c'est une vie de battre. Bonne chance pour voir ça. Mais là, maintenant, c'est vrai que lorsqu'on regarde d'un point de vue plus qui a des chances de gagner le vrai titre, ouais, Paris Saint-Germain, là, ils ont le projet sportif, mais eux, ils ont beaucoup d'argent alors que Alpine, c'est pas vraiment le cas. Donc, c'est quoi le projet sportif de l'Olympique de Marseille? Même question pour Alpine. C'est quoi le projet sportif? C'est pas clair.
Ah, mais justement, j'ai une question.
Surtout, ça roule. Ça roule. C'est vrai que ça sonne au PSG, en fait.
Ah oui. Non, ça roule au PSG.
Ça tourne.
Mais j'ai une question. Qu'est-ce qu'il advient de Zidane? Est-ce que la décision de l'embaucher comme ambassadeur d'Alpine, c'était une décision prise sur un coup de tête?
Oh, vraiment, on est encore là. 7 ans plus tard, on est encore là. Ça fait mal.
Bref, tiens, parlant de... on va passer à McLaren parce que...
Mais juste pour dire rapidement, on l'a dit au début du balado, Gasly et Ocon ont fait les dépassements du jour.
Oui.
Donc, cette voiture de la performance.
Cette voiture de la performance, les pilotes sont capables de livrer la marchandise au moins.
Oui.
Et parlant de livrer la marchandise, ben tiens, chez le clan Papaye, Lando Norris a sauvé son Grand Prix. Hein.
Ah, c'était la catastrophe au début du Grand Prix. Je le voyais à la queue leu-leu, je me disais, ils vont le retirer. Il est tellement lent, il n'y a aucune chance. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, Abdou. Peut-être que tu as plus de notes pour moi, parce que moi, au cinquième tour, j'ai noté Norris change ses pneus. Au cinquième tour, il change ses pneus. La cata pour McLaren. Il a fait un arrêt en moins, si je ne me trompe pas. Et il est resté sur les durs très longtemps. Donc, au cinquième tour, il est passé des médiums ou des tendres aux durs, ce qui lui a permis de pouvoir sauver un arrêt et de pouvoir remonter mécaniquement jusqu'à la septième place. Je pense que c'est ça, mais j'ai pas particulièrement bien suivi Norris parce que je pensais pas qu'il allait aussi bien remonter. Donc, j'ai manqué quelque chose pendant le Grand Prix, là, puis je m'en excuse, Abdou, j'espère qu'il a plus de notes que moi, mais finir septième, sachant qu'il était tellement loin derrière, relève d'une certaine performance du jour.
Et d'ailleurs, tiens, c'est bien que tu en parles parce que c'est le seul pilote à avoir utilisé la gomme dure durant ce Grand Prix. Mais.
Ouais, ça dit quelque chose. C'est une stratégie très osée et ça a payé.
Et ça a payé parce qu'en même temps, il s'est arrêté au 17e tour et a fait 27 tours sur la gomme tendre. Donc, il a été capable. Parce que oui, il y a eu aussi la mini averse aussi durant l'épreuve, ce qui l'a aidé.
La pluie était notée à partir du 18e tour et la pluie est restée visiblement pour 10 minutes parce qu'au 24e, la pluie était terminée. Donc, si on fait le calcul, ça donne 10 minutes. Donc, oui. Et à ce moment-là, on a vu beaucoup de voitures autour du 17e, 18e tour s'arrêter pour changer les pneus, pour passer comme souvent médium à tendre parce que la piste, comme elle est relativement froide, le pneu tendre fait le faire durer un peu plus longtemps, monter mieux en température, avoir une température sans être trop excessive parce que la piste allait être refroidie parce qu'il n'y a pas de soleil puis en raison de la pluie. Donc, c'est un moment intéressant pour s'arrêter parce que passer de la gomme tendre à la gomme dure dès le cinquième tour, il est resté là-dessus, comme on a dit, pour 13 tours. C'est pas un long run. Donc, on permet de pouvoir utiliser au moins plus qu'une gomme, revient et oui, il termine septième. C'est une très bonne performance pour Lando Norris. C'est sûr que rétrospectivement, on sera sans doute pas content du résultat final. Quoique on pourrait être content du résultat final, mais au regard des circonstances, a beaucoup bougé dans le classement. Donc, oui, une septième place, c'est très bien. Sachant qu'il est parti 7e, donc a commencé 7e, fini 7e, mais aurait pu terminer dernier.
Exact. Donc, ouais, c'est une bonne chose d'avoir vu Norris remonter. Puis son dépassement sur Sargent à l'extérieur du virage 9 Ben, en fait, pardon, pas du virage neuf, mais du virage sans nom, là. C'était de toute beauté.
Il était beau, lui.
Donc, avant que les deux Alpines nous servent les dépassements du jour, ça allait être Lando Norris. Et là, on va parler de Yuki Tsunoda. Je suis super content pour lui, mais un peu déçu du résultat final. Parce que il s'est retrouvé, à un moment donné, sixième.
Oui.
Sixième.
Au 23e tour à la mi-course. J'ai senti une note. Tsunoda est sixième. La voiture fonctionne bien.
Oui. Un très bon. Un excellent départ. Puis je pense qu'il était parti quoi? 11. Il était parti quoi? 11, je pense 11, 13e à peu près.
11.
Il était parti 11e. Donc il a fait un excellent départ. Bon, évidemment, il a réussi à dépasser Carlos Sainz aussi parce que la Ferrari.
Il n'a pas dépassé Carlos Sainz aujourd'hui.
Ouais, exact. Celui qui ne l'a pas fait, vous êtes officiellement une fraude. Donc, ça veut dire. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton l'a dépassé. Donc, Max Verstappen, Sergio Perez et Charles Leclerc, vous êtes des fraudes.
Ouais.
Donc, mais Yuki Tsunoda a vraiment fait une bonne course. Vraiment dans le coup, mais c'est juste dommage que ça se résulte en une dixième place. Parce que vraiment, je pense, aujourd'hui, ça aurait été genre position 7 à 9, au moins.
Ouais, il était quelque part dans ces eaux-là. Le rythme de Tsunoda en course était bon. C'est bon pour la confiance, c'est juste dommage. Peut-être les pneus à la fin qui ont été difficiles, les autres voitures avaient un peu plus de rythme. Mais n'empêche, c'est sûr qu'AlphaTauri ne sera pas content du résultat de Tsunoda, puis on va sans doute le savoir très rapidement. Mais dans toute autre équipe, je pense qu'on aurait été très satisfait parce que cette voiture-là fonctionne. C'est de l'autre côté du garage qui est inquiétant. Daniel Ricciardo, on ne l'a pas vu jusqu'au 30e, 32e tour. Mais visuellement, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais montré. Et puis à un moment donné, on a pensé à nous le montrer parce que je pense qu'il fallait qu'on nous le montre.
Ouais.
Mais sinon, on aurait pu ne pas nous le montrer puis ça n'aurait pas changé grand-chose. Il y a un temps d'adaptation chez Ricardo, c'est nécessaire, mais ouais. Là, Tsunoda, aujourd'hui, il a mis une bonne claque en plein visage.
Et pourtant, même hier, même si c'était sous des conditions totalement différentes, Ricardo avait connu un bon sprint quand même, fini dixième, même si ça ne...
Ça donne zéro point.
Ça donne zéro point.
Qu'on donne des points.
Exact. Mais il s'est retrouvé dans le top 8 à un moment donné, donc...
Ouais.
Ricardo a bien fait lors du sprint. En course, ça a été un peu plus difficile. Il a été souvent, il a été la plupart du temps presque dernier. Ben, en fait, il a été dernier pendant plusieurs tours aussi. Il a commencé à monter un petit peu, mais ensuite, ça a genre stagné un peu. Donc, je pense que je vais être lousse sur Ricardo parce qu'évidemment, il continue à apprendre la AlphaTauri. Mais Tsunoda a vraiment mangé Ricardo en fin de semaine. Aujourd'hui, devrais-je dire, plutôt qu'en fin de semaine.
Tsunoda, de façon générale, c'est son meilleur Grand Prix cette année.
Oui.
Et j'essaie de voir par rapport à l'année passée. Il a peut-être fait de meilleurs résultats de façon générale, mais c'est certainement son meilleur Grand Prix cette année. Je ne sais pas si c'est son meilleur Grand Prix de façon générale en Formule 1, mais non. Ça fait partie de ses meilleurs Grands Prix en Formule 1.
Moi, je pense que c'est son deuxième meilleur Grand Prix en carrière, parce qu'évidemment, il y a le Grand Prix de Michael Massey 2021.
Ah oui, c'est vrai.
Où il avait fini quatrième.
C'est vrai.
Donc,
c'est circonstanciel. J'ai envie de dire c'est circonstanciel.
C'est circonstanciel, effectivement, dans les circonstances que nous connaissons. Mais aujourd'hui, on a vraiment vu ce que Tsunoda est capable de faire aussi. Donc,
Imaginez dans une meilleure voiture ce qu'il peut faire.
Exact.
Tsunoda a vraiment sa place en Formule 1. J'ai vraiment l'impression qu'il a sa place en Formule 1.
Ouais,
contrairement à plusieurs, là, les deux pilotes asiatiques, Zhou et Tsunoda, enfin Guan Yu et Tsunoda, ont leur place en Formule 1.
Ah oui. Puis justement, peut-être, on va parler un petit peu d'Alfa Romeo, de Zhou Guan Yu, entre autres. Un peu invisible, comme c'est à leur habitude. Mais au moins, ils ont été dans le coup, dans les batailles au milieu de peloton. Donc, au moins, surtout après le désastre en Hongrie où il s'était bien qualifié, puis ensuite ça a dégringolé dès le premier tour. Mais aujourd'hui, les deux pilotes ont été dans le coup dans des batailles dans le milieu du peloton aussi. Donc, ça va, au moins, on les a un peu vus comparés au dernier Grand Prix, et je dis bien au pluriel, parce qu'évidemment, on les a beaucoup vus en Hongrie, comparé à en début de saison.
Ouais, Bottas et Zhou terminent respectivement 12 et 13, sachant qu'ils sont partis respectivement 11 et 17, circonstanciel en raison de vendredi, en raison de la pluie. Mais Zhou a bien remonté, je trouve, le classement, a passé proche de marquer des points à certains moments, Bottas aussi, mais il y a un manque de rythme dans cette voiture. Bottas est quand même un très bon pilote, on va pas se le cacher, là. Donc, de voir Bottas terminer 12e, ça veut dire que la voiture est lente. Mais Zhou qui termine 13e, oui, il y a un potentiel.
Oui, oui, il y a un certain potentiel.
C'est pas juste un pilote payant, c'est un bon pilote.
Oui, oui, exact. Non, c'est vraiment...
Mais c'est la pire voiture du plateau, je pense. C'est une des pires voitures. À déterminer entre la Haas et peut-être la Williams, mais c'est pas une grande voiture cette année.
Non. Écoute, c'était juste correct, mais sans plus pour Alfa Romeo aujourd'hui. Ma déception de ce Grand Prix, c'est Williams, parce qu'à un moment donné, ils ont fait un très bon début de course, mais comme tu l'as mentionné en début d'épisode, c'est la seule équipe avec 3 arrêts.
Ouais. Albon, jusqu'à un certain moment, était 7e après avoir dépassé Sainz au 5e tour. Puis, au 36e, on apprend que les deux Williams ont fait 3 arrêts. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est étrange.
Ouais.
C'est étrange parce qu'ils étaient proches de faire des points et là, ils terminent 14e et 17e respectivement, Albon et Sargent. Ouais, il y a beaucoup de questions qu'on aurait répondu parce que faire 3 arrêts, on pensait que les autres équipes allaient le faire, mais finalement, je pense que les autres équipes ont été plus malines que les Williams et ont été capables de faire assez de lift and coast pour terminer le Grand Prix. On sait qu'au niveau de l'essence aussi, c'est très difficile, mais quand même pour les pneus aussi, c'était assez difficile visiblement, mais les Williams qui ont fait 3 arrêts, là, ça, c'est les questions qui étonnent. Là. C'est pas tant les pilotes qui déçoivent, c'est la voiture qui déçoit.
Et d'autant plus aussi que Spa était un des circuits justement où on pouvait voir le potentiel de la Williams à cause des... évidemment du premier et troisième secteur où la Williams est une fusée.
On l'a vu au début du Grand Prix.
On l'a vu au début du Grand Prix.
Si le Grand Prix avait duré 5 tours, oui, on l'aurait vu.
Exact. Et en plus, ça n'a pas plus aidé le fait qu'il y a eu beaucoup de pluie pendant la fin de semaine parce que je pense que Williams misait énormément sur des conditions sèches pendant la seule période d'essai libre pour justement montrer de quoi elle a l'air, mais ça n'a pas été le cas. Donc, tu sais,
Alexander Albon a dépassé 8 voitures en 5 tours.
Ouais, t'imagines, 8 voitures en 5 tours.
Il est parti 15e au 5e tour, il était 7e quand il a dépassé 5, puis après il s'est arrêté pour ranger ses pneus.
Et ça a fini avec...
Ça, c'est une sacrée performance.
Ah oui!
Pas beaucoup de voitures cette année qui peuvent dire qu'ils ont dépassé 8 voitures en 5 tours.
Ah oh non, c'est remarquable. Et puis, à un moment donné, tu avais même Logan Sargeant qui était dixième à un moment donné. Ouais. Donc, la Williams avait un certain potentiel, mais c'est juste dommage que ça soit arrêté là pour finalement finir hors des points. 14e pour Albon, 17e pour Sargeant, si le calcul est bon. Mais au moins, il reste Monza comme circuit potentiel où ils peuvent bien faire.
Ouais, Suzuka aussi, peut-être.
Ouais, Suzuka aussi, oui. Donc,
Vegas.
Ouais, avec la longue ligne droite sur le strip.
Ouais.
Enfin, si...
Il y a un potentiel, c'est dommage, parce que j'ai l'impression qu'ils ont laissé des points sur la table.
Ouais, exact. Puis, Haas...
On les a pas vus.
Ouais.
J'ai pas de notes sur eux.
Ouais. À part Gunther Steiner qui est apparu samedi avec... mais c'est
une demande en mariage, c'est ça?
Non, je pense pour... non, pas une demande en mariage, mais pour être pilote en 2024. Mais...
Ah oui, pilote pour être pilote en 2024 et Gunther a trouvé ça très drôle. Oui, c'est à peu près la seule chose que je retiens de Haas pendant la fin de semaine. Il n'y a rien à dire sur eux,
ouais. Exact. Donc, c'était pas fameux pour Haas, comme c'est à l'habitude. C'est une voiture qui est relativement bonne en qualification, mais qui est un tracteur en course. Donc,
exact. Et un pas joli tracteur en plus, contrairement aux Aston Martin des précédentes années.
Ouais, exact. Donc, c'est dommage. Donc, Magnussen 15e, Hülkenberg 18e, mais bon dernier parmi ceux qui ont complété le Grand Prix. Fait que c'est à oublier pour Haas. Encore une fois. Donc, c'est ce qui va compléter, en fait, cet épisode du bulletin GP. Dans le cadre de cette après-course du Grand Prix de Belgique, notre prochaine après-course, ce sera lors du Grand Prix de Zandvoort. Et je dois vous annoncer, à moins qu'il y ait... il nous reste un épisode, en fait, et ça va être le bilan de mi-saison. Et ensuite, on va partir pour les grandes vacances. Donc, le prochain épisode, après le bilan de mi-saison, ce sera lors de l'après-course du Grand Prix des Pays-Bas, à moins qu'il y ait des grosses nouvelles pendant les vacances. Donc, on se retrouvera pour le bilan de mi-saison et ensuite pour l'après-course du Grand Prix des Pays-Bas. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres. Et ensuite, on est sur Facebook, Twitter, Instagram et Threads. Et évidemment, on vous invite à rejoindre bulletingp.com et le groupe Facebook La Monoplace. Alors Jean-Sébastien, un grand merci de ta présence.
Un plaisir. Bonnes vacances et on se revoit le 27 août.
Oui, effectivement. Donc, on souhaite de bonnes vacances. Évidemment, on vous invite à nous écouter jeudi pour le bilan de mi-saison. Et sinon, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve jeudi pour le bilan de mi-saison. Bonne soirée, bonne journée, peu importe où vous êtes. Salut tout le monde!